La Chambre souhaitait, donc Madame Carpentier souhaitait intervenir sur la qualité architecturale et paysagère.
Alors en fait, j'ai beaucoup de remarques. Déjà, j'ai un gros souci parce que je vois que ce qui s'applique et qui est obligatoire pour le monde agricole, qui est imposé par l'Agence de l'eau ou l'ARS, etc., n'est pas forcément viable pour le monde urbain. Ça, il faut savoir que ça interpelle beaucoup la profession. Dans les exemples, c'est que déjà la haie. La haie en agriculture, c'est formellement interdit de détruire une haie. Une destruction de haie, c'est passible d'une amende. En plus, on a obligation de replanter, etc. Et on voit très souvent, quand les gens aménagent, font construire une maison en ville, la première chose qu'ils font, ils abattent la haie et ils construisent un mur. Après la maison, bien entendu. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse en sorte que les règles qui sont obligatoires sur l'agriculture deviennent également obligatoires en ville. L'autre souci que nous avons, c'est le problème du respect de la propriété. Soit on est propriétaire quand on est agriculteur, soit on est fermier, mais quand on est fermier, on paye un loyer. C'est comme quelqu'un qui habite dans un logement et qu'il est locataire. On ne peut pas rentrer chez lui parce qu'on est le propriétaire, venir se servir le café ou je ne sais pas quoi. Quand on se promène dans la campagne, il y a des plantes qui sont là. Bientôt, il y aura les tournesols, etc. Ce n'est pas du open bar. Ça veut dire que quand une personne s'arrête sur une parcelle agricole, ramasse des cocons de maïs pour nourrir ses poules, cueille du tournesol pour se faire un bouquet ou du blé pour se faire un bouquet, etc., ils volent la production agricole, même si c'est pas une grosse quantité. Individuellement, c'est pas une grosse quantité. Mais quand vous avez 6000 habitants qui vont aller ramasser 10 tournesols pour se faire un bouquet, ça vous vide le champ. Non, mais on n'en arrive pas là. Mais je veux dire, c'est des choses, il faut en avoir la notion. L'autre problématique importante que nous avons, c'est, vous parliez des chemins ruraux. Aujourd'hui, on nous impose de mettre en place, vous devez le savoir, des zones de protection des gens, notamment à proximité des habitations. On doit laisser des zones, souvent enherbées, non traitées, etc., qui posent des soucis. Alors ici, vous êtes plutôt des petits villages. Je pense que vous avez moins la problématique. Mais quand vous commencez à atteindre 10 000 habitants, les gens ne supportent plus d'avoir de l'herbe ou des ronces qui poussent à proximité de leur grillage ou de leur clôture. Sauf que l'obligation agricole, c'est un broyage par an. Ça, c'est ce à quoi nous sommes obligés de faire. Et quand vous êtes agriculteur et que vous recevez des courriers de vos communes pour vous demander d'aller débroussailler, etc., etc., alors qu'en fait, ça va vous coûter et que vous n'avez pas d'obligation, c'est gênant. L'autre chose, c'est les chemins communaux, du coup. Si on pousse la réglementation, demain, si c'est très fréquenté, on pourra nous obliger à laisser des bandes supplémentaires. Donc le problème, c'est l'entretien, c'est la perte de surface exploitable, etc. Alors je sais que ça ne vous touche pas directement, mais sauf que on est sur un territoire fortement urbanisé, avec une forte demande d'urbanisation, puisqu'on absorbe, je crois que c'est 15 ou 18 000 habitants par an sur la Haute-Garonne, ce qui est quand même très important. Alors, c'est sûr que beaucoup restent sur le secteur toulousain, mais il y en a d'autres qui viennent chez vous. Enfin, moi, je suis native d'un petit village au-dessus de Montesquieu, et chaque fois que je redescends dans ma famille, je vois que ça pousse les maisons quand même. Donc, il faut vraiment que demain, je ne sais pas si vous le faites, mais quand on accueille la population, il faut leur expliquer, oui, d'accord, il y a la nature, mais oui, il faut aussi respecter certaines choses. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on se retrouve avec de plus en plus d'agribashing en Haute-Garonne, avec des dépôts d'ordures sauvages qu'on doit gérer. Donc sur les chemins communaux, je ne sais pas comment vous les gérez, enfin les chemins ruraux, comment vous le gérez, mais quand vous vous retrouvez avec des dépôts d'amiante, etc., etc., ça a quand même des coûts colossaux. Donc je veux dire, c'est des choses aussi qu'il faut penser quand vous voulez rouvrir les chemins pour que les gens se promènent, etc. C'est quand même important. Et du coup, il faut voir aussi qui entretient le chemin. Et les abords du chemin, parce que quand je pars, j'amène ma bouteille d'eau, ma canette, ma barre de sneakers, tout ça, et je jette le déchet sur le bord du champ, qui est censé le ramasser, ce déchet? Voilà. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui, je vous garantis, pourrit la vie de l'agriculteur qui est en périurbain. Ça pourrit la vie. Dernière chose, c'est concernant l'eau. Alors, l'eau de pluie qui est collectée, pour moi, elle permet d'arroser les végétaux. Il y a une étude très récemment qui montre qu'en fait, c'est l'évapotranspiration des végétaux qui provoque à plus de 60% les évapotranspirations. C'est pas juste la mer qui s'évapore qui fait les nuages. capter une partie de l'eau, parce qu'on ne la captera jamais à 100%, même en mettant 1000 litres sous une évacuation de toiture. Ça permet du coup d'alimenter ces végétaux. Ça limite du coup l'utilisation d'eau potable aussi pour irriguer les végétaux. Donc moi personnellement, je pense qu'il vaut mieux favoriser ça aujourd'hui plutôt qu'augmenter l'eau potable. Ça a des coûts. On a le problème du réchauffement de l'eau, ça on n'en a pas parlé, mais c'est un gros souci pour la production d'eau potable. On a un problème d'abaissement des débits des cours d'eau qui, du coup, concentre les pollutions qui sortent des stations d'épuration, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne dans son ensemble, parce que sinon, c'est un problème général pour tout le monde de demain. Voilà. Ensuite, quand on parle de désartificialisation, je vous invite à aller à Lavernoz-la-Casse, où en fait, ils ont réaménagé des parkings, où il y a une zone herbagée et une zone bétonnée. Je trouve que c'est super bien fait, et que si on avait ça dans la plupart des centres commerciaux, ben on aurait plus d'infiltration d'eau dans les sols, une meilleure alimentation de la nappe. Et pour votre question tout à l'heure, madame, les nappes phréatiques, en théorie, elles se réalimentent de novembre à mars. Voilà. Le pamier découvre les cours d'eau. Donc moi, ce qui m'inquiète là-dedans dans ce process, c'est l'augmentation de la température du coup de l'eau. Parce que où part cette eau ? C'est un problème important, parce que le but du jeu, c'est pas d'augmenter la température de l'eau. Le deuxième point important, c'est l'évaporation de cette eau, parce qu'aujourd'hui, les environnementalistes ne veulent pas qu'on constitue de nouvelles réserves d'eau à cause de l'évapotranspiration, de ces volumes et donc du coup de la perte. Donc moi, quand je vois que nous, agriculteurs, on est embêtés pour faire des réserves d'eau et que d'un autre côté, les villes peuvent ouvrir des espaces pour la faire évaporer, je dis pas que je suis contre, juste ça m'interpelle parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence de réglementation entre le monde rural et le monde urbain. Et ça, ça nous dérange. Ensuite, concernant un autre exemple que j'ai appris là hier, Muret a fait des investissements sous ses jardinières où il collecte le pluvial des routes. Et en fait, ils ont mis un système où les plantes peuvent s'auto-alimenter en eau par capillarité. Ce qui fait que du coup, en collectant une partie du ruissellement des routes, ils ont 90 jours d'autonomie sur l'alimentation en eau de leur jardinière. J'ai trouvé ça super. Voilà, donc je vous passe l'idée, parce que des fois, ça peut vous permettre de rafraîchir les villes et sans forcément utiliser beaucoup d'eau.